commentaire d'Isabelle Fontaine.
Oh oui.
Oh, on est rendu au commentaire.
Ben c'est ça, j'allais dire la commission Fontaine encore, mais le commentaire d'Isabelle Fontaine, c'est encore plus approprié pour
bon,
ce
d'accord.
segment. Comment vas-tu, Isabelle?
Ça va et toi?
Ça va bien. La férue de politique que tu es doit trépigner d'impatience, car aujourd'hui, les États-Unis vont voter. Élection de mi-mandat. Donald Trump va rester là.
Non, la place de Donald Trump n'est pas remise en question.
Mais on pourrait lui mettre les bâtons dans les roues, évidemment.
Absolument. T'sais, les élections de mi-mandat, là, juste pour faire la lumière pour les auditeurs, qu'est-ce qui est en jeu? Les places au Congrès. En fait, le Congrès est composé de deux chambres. La Chambre des représentants, qui est là, 435 sièges qui sont en élection chaque deux ans. Donc, finalement, toujours en élection. Et le Sénat, qui est composé de 100 sièges répartis également entre tous les États. Et là, c'est des mandats de 6 ans où il y en a le tiers qui est en élection chaque deux ans. Donc là, aujourd'hui, le tiers du Sénat. Et l'ensemble des sièges à la Chambre des représentants sont en jeu. Donc, c'est un grand moment là, pour Donald Trump. Il a multiplié les soirées avec beaucoup, beaucoup de partisans au cours des derniers jours. Il en faisait beaucoup mention sur Twitter. Il y avait beaucoup de participation, des longues files d'attente, évidemment. Essentiellement, c'est un référendum sur la satisfaction à l'égard de sa présidence, puis le support. Puis, tu sais, on sent la tension, il est très fort.
Mais pour qu'il sorte en aussi grand nombre et qu'il mobilise autant les troupes républicaines, j'imagine qu'il doit avoir peur.
Il doit avoir peur. En même temps, tu sais, on sent les deux débats. Tu sais, c'est un référendum sur sa performance. Oui, il y a eu tout le mouvement MeToo. Il y a eu sa façon de se comporter à l'égard des femmes, à l'égard des minorités, la façon dont il exploite ce qui divise aux États-Unis, toutes ses politiques à l'égard de l'immigration. Hein, il est très dur aussi à l'égard des immigrants, toute sa réaction à la caravane qui s'en vient, le mur qu'il doit construire, mais aussi ses militaires qu'il déploie à la frontière. Ça, c'est une chose. En contrepartie, la situation économique est assez bonne. Il a beaucoup parlé de protectionnisme, il a agi sur ces questions-là, il a conclu la renégociation des accords de libre-échange avec le Canada puis le Mexique. Donc ça peut faire en sorte que oui, il y a une certaine satisfaction à son égard du côté de ceux qui ont été effectivement ses électeurs. Et rappelons-nous qu'il y a deux ans, personne ne croyait qu'elle allait l'emporter. Il a quand même réussi à le faire avec une partie de l'électorat qui était un peu silencieuse, qui risque encore de s'exprimer, qui va dans ses rallyes, qui porte la casquette « Make America Great Again ».
La casquette rouge.
C'est pas jouer non plus en faveur des démocrates ce soir. Là. Ça devrait être une longue soirée.
Et surtout que les démocrates ont quand même sorti l'artillerie lourde. Généralement, tu sais, les belles-mères là, en politique, là, les anciens chefs, on tient pas nécessairement à les avoir dans les jambes, mais là, Barack Obama, c'était comme la belle-mère vedette, je te dirais, dans les
Absolument.
Dernières semaines. On était content de l'avoir.
On l'a ressorti. Puis c'est aussi un signe que le Parti démocrate est en reconstruction. Il doit avoir une nouvelle élite qui doit se construire. Hein. C'est pas clair qui pourrait émerger en vue de la présidentielle dans deux ans. Puis il y a aussi tout le mouvement de Bernie Sanders. Là, c'est ce qu'on a appelé. Eux se disent eux-mêmes socialistes, mm-hmm. même si on s'entend que pour eux, socialistes, c'est plutôt progressiste ou sociodémocrate pour nous, dans la mesure où ils défendent le contrôle des armes à feu, un salaire minimum à 15 $, un financement du système d'éducation publique, un système de santé universel comme au Canada. Donc ça, c'est des socialistes aux États-Unis. Là. Mais ce mouvement-là, à l'intérieur du Parti démocrate, se construit. Il y a beaucoup de nouveaux candidates vedettes qui s'inspirent de ce mouvement-là. Fait que, tu sais, ils sont en reconstruction d'une élite, mais c'est la même chose chez les républicains. Les républicains plus traditionnels, hein, on avait Paul Ryan là-dedans comme une grande vedette qui se retire, M. McCain qui est décédé. Est-ce que les républicains deviendront le parti de Donald Trump ou est-ce qu'il restera une élite républicaine plus traditionnelle avec une influence importante?
Les modérés vont avoir leur mot à dire là-dedans. Puis tu parlais de reconstruire l'élite des démocrates. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Beto O'Rourke récemment. C'est la nouvelle vedette montante. Bon, lui est au Texas. Ted Cruz, là-bas, c'est le sénateur républicain vedette. Et vraiment, c'est un des futurs probablement dans le parti qui sera haut placé éventuellement. Mais Beto O'Rourke, lui, bon, il participera pas à la prochaine présidentielle, mais il prend de la place, on le voit de plus en plus, puis il a un discours très rassembleur. Il a dit, vraiment, hier, là, on a vu ça, peu importe, là, que vous soyez républicain ou démocrate, votez pour le gros bon sens et venez juste faire de ce pays ce qu'il doit être, peu importe votre allégeance, vous êtes les bienvenus. Ce qu'on veut faire, c'est pas de diviser, c'est d'unir.
Exactement. Le discours contraire de celui de Donald Trump, en fait.
Voilà.
Fait que il y aura beaucoup de nouvelles vedettes, on verra des nouveaux visages apparaître des deux côtés, je pense, puis c'est à surveiller. J'imagine qu'on en reparlera demain.
Oh, c'est sûr et certain. Autre sujet, une campagne de sensibilisation qui vise à redynamiser les relations ethno-culturelles qui a été dévoilée hier à Sherbrooke par Action Interculturelle.
Action Interculturelle puis l'initiative Dialogue Plus, là, qui était co-présidée par Annie Godbout et David Morin, ils ont commencé leurs activités le printemps dernier, mais l'initiative d'hier était vraiment intéressante. Tu sais, puis on peut faire un lien, on vient d'en parler avec des politiciens à l'ère où le débat politique populiste essaie d'exploiter ce qui nous divise, puis les clivages à des fins électorales. On a entendu beaucoup parler de radicalisation, d'actes terroristes dans les dernières années. Puis nous aussi, on a des débats légitimes en cours, mais quand même difficiles sur les signes religieux, puis sur l'immigration et l'intégration. Mais là, tu as une initiative qui vient de la collectivité, hein, qui réunit un très grand nombre d'organismes puis d'institutions ici en Estrie, et qui met de l'avant une campagne positive, qui est vraiment très intéressant, très rafraîchissant.
On se ressemble plus qu'on pense.
On se ressemble plus qu'on pense. Puis tu sais, si tu as vu un peu les illustrations, vous les verrez passer, les affiches sur les médias sociaux ou bien dans les différents lieux chez les partenaires, qui mettent en vedette des amis ou des compagnons de travail qui parlent, qui évidemment ont des racines culturelles différentes, mais qui parlent de leur amour partagé pour la poutine ou pour la course, ou deux travailleurs qui pensent à leurs vacances, tu sais, puis on
aussi
met de l'avant
différentes générations, hein. Le clivage des générations, faut pas l'oublier. Outre bon les différences culturelles, là, on en parle pas souvent, mais t'as des générations, puis ça on l'a vu aux dernières élections provinciales, là, les jeunes qui votent totalement différemment de, ben, par exemple, la CAQ a été portée au pouvoir de façon majoritaire. Il y a peu de jeunes qui ont voté pour la CAQ, somme toute.
Ben, on sent qu'effectivement, les préoccupations changent. Tu sais. Mais en même temps, c'est ça, cette campagne-là, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle met l'accent sur ce qui nous unit, puis sur le fait que, dans le fond, les préoccupations, peu importe nos origines, sont souvent les mêmes. Tu sais, elles sont reliées à la famille, aux loisirs, à la sécurité, à la santé financière. Tu sais, elles sont finalement semblables. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé en onde avec Hélène pendant la campagne électorale, quand la communauté musulmane avait organisé un débat avec les candidats politiques où on s'était rendu compte que oui, il y avait les questions de laïcité puis de signes religieux qui les préoccupaient, mais ce qui les préoccupait, eux, d'abord et avant tout, c'était leur propre bien-être, le taux d'emploi qui était moins élevé dans leur communauté que dans le reste de la communauté sherbrookoise, leur intégration, leur participation à la collectivité. Tu sais, finalement, c'est assez universel.
Ben oui. Honnêtement, c'est pas parce que t'es musulman ou peu importe les différences que tu te préoccupes pas non plus de l'économie en général et de la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit, des changements climatiques. Tu sais, il y a des grands thèmes que peu importe votre origine, peu importe votre religion, ça touche tout le monde.
Exactement. Puis, tu sais, on veut tout améliorer notre situation personnelle, celle de nos enfants aussi. Tout le monde aspire à la même chose. Mais il y avait quand même des choses inquiétantes qui rendent cette campagne-là encore plus pertinente. Ils se sont appuyés sur certaines données qui ont fait un sondage pan-canadien duquel ils ont extrait des données pour Sherbrooke. Puis ils mettaient en lumière qu'il y a 39 % des Sherbrookois qui pensent qu'on devrait prioriser l'embauche de Canadiens ou de Québécois, disons de souche, plutôt que d'immigrants. Tu sais, là, à un moment de pénurie de main-d'œuvre, tu dis 40 % des gens qui pensent ça, alors que les employeurs ont des grands besoins en matière de main-d'œuvre, puis qui vont puiser, qui misent beaucoup sur les nouveaux arrivants.
Ils en ont besoin. Puis Régis Labombe, le premier, a été celui qui a décrié ce que la CAQ voulait faire.
Avec le taux de diminuer le nombre d'immigrants, effectivement. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Il y a aussi 50 % des Sherbrookois qui ne reconnaissaient pas l'existence ou qui ne savaient pas qu'il y avait des gestes à caractère haineux des gestes discriminants qui étaient posés à l'égard des personnes issues de l'immigration. Et 48 % pensent que l'accueil des immigrants augmente beaucoup ou moyennement le risque d'extrémisme violent. Ces trois données-là là, justifient l'existence de cette campagne positive sur ce qui nous rassemble, puis le fait qu'il y a encore beaucoup à faire pour sensibiliser les gens à Sherbrooke et en Estrie les relations interculturelles.
Un bémol, est-ce que ces campagnes-là s'adressent vraiment, vont parler à ces gens-là qui ont justement les préjugés défavorables? C'est toujours ça mon inquiétude. C'est comme là, c'est pas super parce qu'il y a quand même des partenaires importants qui participent. Tu as le Cégep, le CIUS de l'Estricheuse, la Ville, la Commission scolaire de la région de Sherbrooke. Mais est-ce que les gens qui ont vraiment des idées fermées...
Il y avait
fermées...
un très grand nombre d'élus, le maire, les députés. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va aussi demander aux institutions et aux entreprises qui participent à la campagne d'afficher leurs propres personnages, les gens issus de leur milieu qui, eux, ont des choses intéressantes à dire sur les liens interculturels. Fait que peut-être que ça, en parlant des gens qu'on côtoie au quotidien, on peut faire changer les préjugés.
Ben, souhaitons-le. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci.
À demain.